Bonsoir à toutes et à tous, puisqu'il y a quelques papas, quelques hommes en tout cas, c'est rare, mais il y en a quand même. Ça nous fait tout très plaisir d'être là avec Gisèle Georges, pédopsychiatre, ce soir. On va vous présenter ici notre livre, J'en ai marre de crier, comment se faire obéir sans hausser le ton. Tout un programme, et c'est tout à fait possible, comme on va le voir bientôt. Gisèle, tu es pédopsychiatre, donc c'est-à-dire médecin, qui a suivi une spécialité en psychiatrie puis en pédopsychiatrie. Tu es ancienne chef de clinique et tu travailles en libéral depuis plus de 15 ans à Paris. Tu animes également des groupes d'estime et d'affirmation de soi pour les enfants, les préados et les adolescents. Tu es prof de pédopsychiatrie, de psychothérapie au sein de plusieurs facultés, dont celle de Bordeaux. Et tu supervises certains psychiatres et pédopsychiatres bordelais. Tu es également auteur d'un nombre important d'ouvrages, dont « La timidité de l'enfant et de l'adolescent » aux éditions Duno, « Mon enfant s'oppose, que dire, que faire » et « Ses enfants, « Malade du stress » aux éditions Anne Carrière, « La confiance en soi de votre enfant » chez Odile Jacob et « J'en ai marre de crier » aux éditions Erol. Et tu as également, si mes souvenirs sont bons, d'autres ouvrages en cours sur l'estime de soi et l'affirmation de soi, ainsi que le stress à l'usage des parents. Bon, pour ma part, j'ai un parcours encore un petit peu plus modeste que Gisèle, en tout cas pour l'instant. Je suis journaliste en psychologie de l'enfant et de l'adolescent depuis bientôt 5 ans. Donc, je suis tombé dans le journalisme en psycho de l'enfant et de l'adolescent quand j'étais jeune papa, ce qui m'a permis d'être un peu conscient d'un certain nombre de choses au niveau du développement de l'enfant, sans que ça fasse de moi un parent parfait. Parce que, comme vous le verrez, il n'y a pas de parent parfait. Ça, je peux vous le dire. Et puis, j'ai commencé à interviewer Gisèle Georges pour des articles sur ces sujets. Et petit à petit, une complicité s'est nouée. Et puis, on était sur la même longueur d'onde. Donc, on a un petit peu creusé le terrain. Et c'est au cours de nos discussions qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de parents qui criaient sur leur enfant juste pour se faire obéir. Donc, on a parlé, on a creusé le sujet. Et on a décidé de faire un bouquin un peu plus étoffé, un peu plus en profondeur, qui explique mieux les choses. Donc Gisèle, qui amenant un savoir-faire, un savoir expérimental, et moi, j'allais pas dire un savoir parental, pas au sens académique du terme, mais disons en essayant de garder un bon sens parental, parce que la vie de parent, c'est du concret et pas mal de concret quand même, de bout en bout. Et puis pour moi, ça m'a appris également toutes les vertus de l'attachement, et j'ai découvert tout un versant assez négligé de l'autorité, enfin trop souvent ignoré à mon sens, qui était un peu l'autorité positive et la communication positive. C'est-à-dire que j'ai découvert qu'on était au moins aussi autoritaire avec un enfant qu'en valorisant un comportement, qu'en validant les acquis, les progrès, qu'en s'impliquant également dans le lien émotionnel, et que c'était pas seulement, l'autorité n'était pas seulement une affaire de cadre, de limites, de barrières, de contraintes, et qu'il suffisait pas seulement de froncer les sourcils, d'avoir la ride du lion et de dire non. Voilà. Gisèle, est-ce que tu peux développer un peu sur le versant de l'autorité positive ?
Oui, alors l'autorité positive, j'ai un peu de mal avec ce terme-là. Je dirais que c'est l'autorité dans la communication positive. Souvent, on confond mettre de l'autorité avec une personnalisation. C'est-à-dire que l'intérêt dans ce livre, c'est les questions que me posaient les parents. Moi, j'ai fait un peu la démarche inverse qu'on fait d'habitude dans les livres scientifiques. C'est-à-dire que dans les livres scientifiques, on vous balance de la théorie et on vous demande de vous adapter à cette théorie. Moi, je suis partie des questions que les parents me posaient. Pourquoi je dois répéter 20 fois les choses? Pourquoi je suis obligée de crier pour qu'il fasse les choses? J'en ai marre, je lui ai expliqué 20 fois, il recommence, je l'ai puni, il recommence. Donc, de comprendre un petit peu ce qui se passait, ce qui se jouait là. Et ce qui se jouait, c'est souvent que les parents s'impliquaient trop. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils s'impliquaient trop, c'est qu'ils investissaient, ils se personnalisaient. Si mon enfant ne m'obéit pas, c'est qu'il ne m'aime pas, ou c'est qu'il a des inquiétudes, ou que je m'y prends mal, ou que je suis une mauvaise mère, ou que je suis un mauvais père. Il y avait des cognitions derrière qui étaient extrêmement négatives, et j'ai souhaité faire deux choses, c'est-à-dire dire aux parents, attendez, c'est pas facile d'aider un enfant à faire des apprentissages. Quand vous leur apprenez la bicyclette, ben ils peuvent tomber, c'est Vous n'êtes pas obligé à ce moment-là, vous ne vous sentez pas dans l'obligation de crier, vous vous sentez juste dire bah, il est en train d'apprendre la bicyclette. Un apprentissage, une consigne, ça s'apprend. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'apprentissage d'une bicyclette? On valorise l'enfant. On lui dit, on lui explique, et puis après, il commence à faire, il se débrouille plus ou moins bien, et on l'encourage. On dit, c'est bien, tu as bien pris le guidon, tu as bien appuyé sur les pédales, tu as bien freiné. Et puis quand il tombe, on dit, dommage, mais on repart, et on recommence. Et on n'a pas envie trop de crier. Ça arrive, mais en général, on n'a pas envie de crier. Si on part du principe qu'un enfant est un apprenti et qu'il doit apprendre un certain nombre de consignes, et que c'est aussi un enfant qui aime bien tester les limites, donc à un moment, il va falloir l'accompagner comme on l'accompagne dans la bicyclette, dans l'apprentissage de ses consignes. Donc, on peut dire « attention ». Tu vas pas faire, si tu fais pas cette consigne, il va t'arriver une catastrophe. Ça, c'est une façon d'apprendre la bicyclette. Si tu fais pas ça, tu vas tomber. Mais je pense que ça encourage pas vraiment les enfants. Par contre, la communication positive, c'est-à-dire que si tu arrives à faire la bicyclette, tu pourras aller avec tes copains. Mais pour ça, il faut un certain nombre de règles de conduite qu'il faut que tu apprennes. Et elles sont pas faciles, et c'est pas drôle, et je veux pas que t'ailles non plus sur la route qui est interdite, et je veux pas non plus que tu rentres après telle heure. Donc voilà, on va commencer par le positif. À quoi ça va te servir de respecter cette consigne? Donc, et surtout, on reste dans la communication. On reste pas dans la personnalisation et votre histoire. C'est-à-dire que pour moi, c'est important que les parents, et c'est ça la grosse difficulté dans l'autorité, c'est de ne pas mettre...
Que les parents ne le prennent pas de façon trop personnelle, c'est à cause de moi, ouais. Il m'en veut.
Ou alors dans leur histoire aussi. Ça peut être, je ne veux surtout pas faire comme mon père faisait, et vous êtes d'une génération où... La génération d'avant était dans l'autoritarisme, on n'avait pas le droit, même pas à dire... Peut-être que non, on ne discute pas et on applique. Et on est un tout petit peu intolérant à la frustration, on t'en colle deux. Et puis, on a eu une autre génération derrière où l'histoire a fait qu'il était interdit d'interdire. Si on interdisait un enfant, on le traumatisait. Donc, on vivait arriver toute une série de jeunes qui me disaient quand même, il y a des limites à respecter, mais enfin, quand même, je peux pas le laisser quand même tout faire.
Il y avait Dolto aussi, un enfant est une personne, il y a eu toute cette émergence aussi de.
Oui, mais Dolto a bien dit qu'il fallait poser des limites, mais on a voulu entendre ce qu'on avait voulu entendre. On était aussi dans une génération post-68, la liberté, on y va à fond. Et Dolto a toujours dit qu'il y a le soi réel et le soi psychique. Et dans le soi réel, elle a toujours dit qu'il fallait poser des limites et un cadre à un enfant, qu'il a des moments de fragilité, que ce cadre va pouvoir le rassurer. Mais on a plutôt entendu la nouveauté de Dolto, qui était aussi de dire, mais attention... ne restez pas que dans ce qu'il dit, c'est-à-dire le nom. Peut-être qu'il y a autre chose derrière. Mmh. C'est vrai, il y a parfois autre chose derrière, mais on a basculé dans l'inverse. Donc, il y a un problème qui peut être celui de l'enfant, qu'il a un traumatisme, qu'il a une souffrance, ou que je suis une mauvaise mère, un mauvais père. Enfin bon, toute une démarche psychologique qui a parfois empêché certains parents de poser des limites de bon sens, j'ai envie de dire. Et donc, après avoir vu les parents qui ont vécu l'autoritarisme, les parents qui ont vécu cette espèce de mauvais laxisme, j'ai vu arriver toute une série de parents qui me disaient comment peut-on avoir un moyen terme. Et c'est aussi l'idée de ce livre, mais pas seulement de ce livre. J'ai écrit « Mon enfance au pause » il y a 12 ans maintenant, et c'était déjà cette démarche-là, c'était de dire, attendez, il y a une façon de valoriser l'enfant, de communiquer, de lui montrer plutôt ce qu'il doit faire, plutôt que de s'attarder sur ce qu'il ne doit pas faire. En fait, la grosse...
Nous, on a quand même plus tendance à pointer ce qu'il ne va pas ou ce qu'il ne doit pas faire, en fait, nous.
Exactement.
Naturellement, en fait.
On est dans une société, dans une éducation scolaire aussi, où on pointe toujours ce qui ne va pas et on a beaucoup de mal à pointer ce qui va. À l'école, par exemple, je travaille beaucoup avec ce que j'appelle le cahier de la réussite. C'est-à-dire que finalement, un enfant qui est en primaire, il ramène un 10 ou un 12 en récitation. Je lui demande comment Tu as fait. Et je demande aux mamans et aux papas de noter la fiche de la réussite. Comment a-t-on 12? Donc, quelle stratégie l'enfant a utilisé pour avoir 12? Quand il respecte une consigne, qu'est-ce qui fait que tu es arrivé? Parce que je sais que tu n'avais pas envie de le faire. Tu as eu le courage de le faire. Explique-moi, qu'est-ce qui t'a donné cette force? Qu'est-ce qui t'a donné le courage? Donc, l'enfant, tout d'un coup, prend confiance en lui, retrouve un peu de l'estime de ses parents et s'aperçoit que un des points les plus importants pour lui, et on va y revenir, c'est très important, c'est le lien émotionnel qui le lie à ses parents. Et en fait, quoi que vous fassiez, quoi que Dolto vous ait dit ou quoi que de nombreux psychologues vous aient dit, on revient toujours quand même au fait que les enfants jusqu'à 15-16 ans travaillent, font les choses essentiellement pour faire plaisir à papa et maman. Et c'est tout à fait normal du fait du lien émotionnel et de ce que tu appelais le lien d'attachement. Mmh.
Il vient d'où justement ce lien d'attachement? Est-ce qu'il arrive comme ça ou est-ce que...
À la naissance, un petit bout d'homme réalise très très vite et en quelques secondes que s'il ne s'attache pas à une personne qui va s'occuper de lui, il n'a aucune chance de survie. Et donc, contrairement à ce que vous pensez, ce qu'on a pu penser, un nouveau-né est un être extrêmement éveillé et qui va susciter par ses cris, par ses pleurs, par ses gestes, l'attention de sa maman, l'attention de son papa. Mais il va quand même un peu cibler maman parce qu'elle a un truc quand même que papa il a pas. C'est quand même un sein qui est assez efficace en termes d'apaisement de malaise et en termes de survie. Et maman aussi est un petit peu plus outillée que papa, puisqu'elle a des hormones qui lui donnent une espèce d'empathie et qui donne du lait, mais les mêmes hormones donnent aussi une empathie qui fait que, je ne sais pas si vous avez vécu cette expérience, mais moi je trouve ça toujours original, vous êtes dans un square, il y a 20 enfants qui disent maman, mais c'est toujours la bonne maman qui se lève en face du bon enfant. Donc c'est cette espèce d'écoute empathique qui est dès la naissance et cette reconnaissance émotionnelle qui se fait dès la naissance. Alors, le bébé, lui, le fait en 3 heures. On a pu faire des études où on les fait sentir des cotons avec imprégnés d'odeurs de différentes mamans et il s'agite un peu plus à l'odeur de maman. On a fait d'autres études sur le dessin du visage, alors un peu informe, mais l'ovale ou du visage de maman parmi d'autres, là aussi, en 3 heures, il est capable de la reconnaître. Et le son, alors ça va encore beaucoup plus vite, puisqu'il a déjà entendu le son de maman dans le ventre de maman, donc ça va encore plus vite. Maman met 2-3 jours pour bien distinguer l'odeur, le visage, et parmi d'autres ressemblants de l'enfant. Ça, c'est le lien émotionnel, c'est-à-dire que dès qu'ils naissent, les enfants s'attachent à vous et s'attachent à... je dirais à la moindre ridule près. Très souvent, on me raconte, vous savez, en ce moment, je suis très anxieuse, c'est pour ça que je suis un peu irritable, parce que j'ai des soucis à mon travail, j'ai été malade, mais il ne le sait pas. Alors, moi, j'ai l'enfant derrière qui me raconte, mais alors, en détail, les choses. Alors, il n'a pas tout bien compris, parce qu'on ne lui a pas dit les choses, mais il dit, je vois bien que maman, elle est fatiguée. Et quand il vous dit, je vois bien que maman est fatiguée, ils vous connaissent tellement qu'ils le savent. J'ai pensé à cette maman la semaine dernière qui a une maladie neurologique dont elle ne veut pas parler aux enfants. Et quand elle rentre, elle est épuisée parce qu'elle a un travail difficile, qu'elle aime beaucoup et qu'elle veut garder parce que ça la maintient un petit peu en forme. Et puis, elle rentre, elle a 2 enfants qui se précipitent sur elle parce qu'ils ont envie de la voir. Et comme elle a une maladie qui l'handicape un peu et qu'elle ne veut pas montrer le handicap... Elle a un petit peu peur de cette précipitation et souvent, elle crie. Et moi, les enfants, je leur dis, ça vous gêne les cris de maman? Non, non, maman, on sait pourquoi elle crie. Et pourquoi elle crie? Parce qu'elle est fatiguée. Et qu'est-ce qui vous dit qu'elle est fatiguée? On la connaît, on sait qu'elle est fatiguée. On ne sait pas pourquoi elle est fatiguée, mais elle est fatiguée. Et donc, on a décidé avec cette maman de leur dire les choses, mais elle me dit, mais comment c'est possible? Comment ils ont su? J'ai tout fait pour le cacher. Bah oui, mais ils vous connaissent. Ils savent quand vous allez bien, ils savent quand vous n'allez pas bien. Donc ça, c'est le lien émotionnel. Ça, c'est la première chose. Je cherche et je repère la personne qui va s'occuper de moi. Cette personne, elle a 3 qualités. Je la reconnais, elle va perdurer dans le temps, et je sais que quoi qu'il arrive, elle va m'aimer. Et au début, je suis même tyrannique avec elle. Parce que tous les enfants naissent tyrans. C'est bien pour ça qu'il va falloir à un moment poser des limites. C'est-à-dire que moi, je suis un bébé, je viens de naître, je hurle. J'ai un problème, je hurle. Et là, il y a un truc génial. Qui s'appelle maman, ou qui s'appelle papa, ou qui s'appelle grand-maman, grand-papa, et qui arrive et qui trouve la solution à mon problème. Même pas j'ai parlé, même pas j'ai dit quoi que ce soit. J'ai juste hurlé, fait grincer les tympans de tout le monde, et j'ai eu la solution à mon problème. Donc je crois, pendant très longtemps, qu'il suffit de hurler et que je vais avoir la solution à mon problème. Et là, maman, elle commence à se fâcher, elle dit non. Quand tu hurles, je veux pas solutionner ton problème. Là, je commence à être un peu intolérant à la frustration. Il va falloir que j'apprenne à demander gentiment. Voilà un apprentissage d'une consigne. Voilà qu'il va falloir que je demande un s'il te plaît, un merci maman. Il va falloir que j'apprenne à me socialiser. Et là, pour y arriver, ben, j'ai besoin d'un autre lien qui s'appelle le lien d'attachement. Alors, le lien d'attachement, c'est ce qui réunit un enfant à son parent, mais qui va aussi l'unir à ses petits camarades, qui va l'unir à sa maîtresse, qui va être le lien de confiance qui se passe entre, voilà, je suis un enfant, j'ai besoin d'être sécurisé, vous êtes un adulte, j'ai besoin que vous me sécurisiez. Et cette notion de sécurité va permettre à l'enfant, plus il est sécurisé dans sa tête, plus il peut s'éloigner. C'est assez étonnant, mais le lien d'attachement est toujours couplé avec la possibilité de se détacher.
Parce qu'il sera sûr de l'amour de ses parents et que du coup, il pourra mieux se détacher pour mieux revenir, c'est ça ?
Exactement. Il est sûr de l'amour, il est sûr que le parent lui fait confiance. Et c'est ce qui se passe, par exemple, dans la bicyclette. On revient toujours à cet exemple-là. Un enfant, il voit l'engin, les deux roues, machin et tout. On n'est pas tout à fait, c'est pas dans nos gènes de faire de la bicyclette. C'est pas un truc qu'on connaît depuis Australopithèque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un truc que l'enfant, a priori, bon, il a déjà tenté les petites roues, mais quand même, la bicyclette, là, on sent que c'est un moment particulier. C'est un moment de transmission. Et là, les parents le regardent et disent, je sais que tu vas y arriver. Et ce lien émotionnel, ce lien d'attachement, va faire que cet enfant va avoir envie d'aller à la bicyclette parce que il va pouvoir explorer le monde qui l'entoure et qui l'a autorisé à l'explorer, c'est cette confiance que papa et maman lui ont donnée dans ses compétences. Et ça va être pareil à l'adolescence, quand l'enfant va commencer à explorer son environnement, c'est-à-dire le cinéma, les boîtes de nuit, enfin les petites choses que les parents n'aiment pas forcément, il va falloir créer ce lien, recréer ce lien d'attachement par une négociation où l'enfant va devoir apprendre des consignes, tu vas pouvoir petit à petit effectivement t'éloigner, petit à petit grignoter un petit peu de liberté entre guillemets extra-familiale, mais il va falloir aussi que tu acceptes les règles du code de la route.
Est-ce qu'on peut le mettre en danger, ce lien d'attachement ? Est-ce qu'il peut arriver que, malgré lui, un parent mette en danger ce lien d'attachement ?
Alors, il y a des moments de vie où le lien d'attachement peut être en danger. Quand un parent, ben, ça arrive à tout le monde, hein, peut être malade, peut être un peu déprimé, peut être angoissé, stressé par la crise, où il y a un autre enfant malade, où il y a un autre enfant difficile dans la fratrie, et on est un petit peu moins attentif à un enfant. Et il peut le vivre comme un désamour. Mais il y a aussi une autre façon de mettre en péril ce lien d'attachement, c'est justement de hurler tout le temps. Mmh. Là, l'enfant, il a deux possibilités. On me hurle dessus, donc la personne qui semble m'aimer, qui semble m'apporter sécurité, elle me crie dessus tout le temps. Donc peut-être qu'en fait, ce n'est pas la bonne personne. Peut-être qu'elle n'est pas là pour trop me protéger, elle est là pour me crier dessus. Elle ne m'explique pas ce que je dois faire, elle ne me rassure pas, elle me crie dessus. Donc, j'ai du mal à penser que cette personne est la bonne personne et je me sens en insécurité.
D'accord. Qu'est-ce qui fait que les parents, ils crient, justement, pour se faire obéir ? Comment ils en arrivent, en fait ? Il y a plusieurs...
Je dirais 10 milliards de réponses à cette question. On n'est pas de marbre. On a des
pas
enfants,
des
on n'est pas des machines, on bosse la journée pour que notre cerveau bambin ait une vie relativement correcte. On essaye de faire au mieux pour eux. Et parfois, dans leur éternel apprentissage et leur éternel test de limite, bah, de temps en temps, on manque un peu de patience. Et donc, bah, c'est le cri, c'est la gifle. Quand ça arrive une fois de temps en temps, ma foi, bah, l'enfant comprend qu'il a dépassé une limite. Ça peut être efficace. Maintenant, quand c'est systématique, parce que voilà, on n'est pas bien, parce que on n'a plus de patience, parce que beaucoup de choses sont difficiles dans notre vie, parce qu'on a une histoire difficile, parce que plein de raisons, parce que l'enfant est un étalon un peu plus sauvage que les autres, plus
tu
difficile à
aider. Tu voudrais dire que tous les enfants ne sont pas des anges ? Je comprends pas.
Non, les enfants sont pas tous des anges.
Hop.
Ça arrive. Enfin, s'ils sont des anges, mais parfois ils tombent.
Oui.
Non, c'est des sacrés anges, c'est bien pour ça qu'on leur pardonne tout. Et ils nous apportent énormément, mais de temps en temps, ils sont un peu casse-pieds, un petit peu, voire beaucoup. Et ils dépassent des limites. Et bon, c'est vrai que quand on a répété 20 fois les mêmes choses, ben, à la 21e, on la répète un peu plus fort. Et puis, ben, on n'est pas, nous non plus, des gens qui réfléchissons. Ah, pourquoi tu es en train de me crier dessus et de ne pas respecter la consigne ? Je pense que ça énerverait aussi les enfants. Hein ? Je ne dis pas qu'il faut crier, mais je dis qu'il faut faire des limites quand même. Et que de temps en temps, bon ben, quand l'enfant est en train de traverser sans permission, ben le cri a cette vertu, je dirais, animalière de le stopper et de le bloquer net. Hein ? Moi, personnellement, j'ai une voix forte, ça marche assez bien. Et ça m'est arrivé, enfin, je suis pédopsychiatre, donc bah, j'ai une fille, et puis bah, ça m'est arrivé de lui crier dessus, en me disant, mon sang, t'as écrit un bouquin de 250 pages pour dire de ne pas crier, et t'es en train de crier. Bon, bah, j'ai crié. Puis après, une fois qu'on a crié, bah, on essaye de s'expliquer, tout le monde a déchargé son énergie, et on peut s'expliquer. Donc le cri, on peut en faire quelque chose de positif aussi. C'est-à-dire que, voilà, tout le monde explose, tout le monde crie, on se calme, on ne discute surtout pas dans la période de cri, on fait juste un cri primal, et on va se calmer. Et après, on reprend les choses, parce qu'il faut remettre le lien d'attachement, parce qu'il faut remettre la communication, parce qu'il faut que ce cri ait une efficacité. Sinon, il n'y a aucun intérêt. L'enfant va s'habituer. Bon,
c'est ça, au bout d'un moment, quel est le risque en fait que
ça
devienne systématique ? Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène d'habituation en fait ? C'est ça ?
Ça s'appelle l'habituation. Oh, même pas mal, comme dirait Titeuf, comme disent les enfants. De toute façon, maman recrie tout le temps. Donc. Mais je vais vous raconter une histoire qui est quand même très intéressante. Comme vous l'a dit Charles, je fais des groupes d'estime et d'affirmation de soi dans lesquels je mets les enfants en jeu de rôle et je leur fais. Gérer la communication dans des situations de leur vie quotidienne. Donc j'ai des enfants de primaire, des enfants de collège et j'ai des adolescents avec lesquels il est difficile de ne pas crier. Je reconnais ce qui est. Et il y a toujours un qui me dit « Oui, j'en ai marre, mes parents me crient toujours dessus parce que je ne range pas, machin. » Très bien. Ben, écoute, tu vois, ce qu'on va faire, on va faire un jeu de rôle. Tu vas faire papa ou maman, comme tu veux. Je te mets un autre enfant adolescent devant toi. Et puis, t'en as 12 qui vont te regarder. Et donc, enfin, 12 à 14. Donc, tu te débrouilles, tu prends le rôle du parent et tu essayes d'obtenir que tes petits camarades rangent leur chambre. Donc, en général, ils commencent la première version, celle que je leur ai enseignée, qui est, s'il te plaît, mon chéri, ça me ferait très plaisir que tu ranges ta chambre. Là, il y a un éclat de rire général, je vous préviens, ça fait 15 ans que je le fais, ça marche à tous les coups. Donc, ma méthode ne marche pas. Il y en a en général un qui, dans sa grande bonté, parce qu'il fait beau ce jour-là et que ça a été vraiment dit gentiment, veut bien accepter de ranger sa chambre. Donc, deuxième version. Mon chéri, j'aimerais vraiment que tu ranges ta chambre, ça me ferait vraiment plaisir. Là, il y en a quand même 3-4 qui sentent que il n'y a pas d'éclat de rire. Et il y en a 3-4 qui sentent que là, on commence à arriver sur un terrain miné. Donc, troisième version. En général, là, les enfants se lâchent et ils disent, tu vois ta sortie de samedi, même pas en rêve si ta chambre n'est pas rangée. Là, il y a Toujours, et ça fait 15 ans que ça dure, et ça fait je fais deux groupes par an, donc vous imaginez dans plusieurs endroits. Donc vraiment là, j'ai une expérience assez importante de la chose, et chaque fois ça me surprend. Mais il y a la moitié du groupe qui range et l'autre moitié qui range pas. Alors la moitié qui range, c'est moi je sais que quand mes parents prévoient quelque chose de l'ordre de la punition, donc si tu fais ci ou si tu ne fais pas ceci, il va t'arriver cela, ils l'appliquent. Et l'autre groupe dit, oh, moi, mes parents, quand ils disent qu'ils vont faire quelque chose, en fait, ils ne le font pas, donc très bien. Et à ma question, qu'est-ce que vous préférez, le parent qui applique ce qu'il prévoit ou le parent qui laisse tomber? Tous me répondent, vous ne le dites pas, mais je le dis quand même. On préfère le parent qui mette des limites parce qu'on sait que quand il fait ça, quand il nous dit ça, on sait que si on va être amené à faire des bêtises, à faire des choses qu'il ne faut pas, ils vont nous arrêter. C'est leur fonction parentale. Ils nous protègent même contre nos propres bêtises. Et ils en ont besoin. Donc c'est pour ça qu'aussi, le parent trop sympa, qu'il n'interdisait pas, en fait, a fait des enfants tyrans, parce qu'il cherchait désespérément qu'on leur mette des limites. Parce qu'il ne savait plus comment aller, il ne savait plus où aller, puisque tout ce qu'il faisait, c'était bien. Donc, quelle est la bonne voie? Quel est le bon code de la route? Tu peux alors faire n'importe quoi sur cette route. Et puis, j'aimais bien l'histoire que tu m'as racontée. C'est toi qui m'as raconté l'histoire avec la confiture?
Ah non.
C'est pas toi qui m'as raconté l'histoire avec la confiture. Alors, c'est une très, très belle histoire. C'est un enfant qui... C'est une petite dame âgée qui est à la caisse... Et puis derrière, il y a un enfant qui pousse le caddie et qui le lui pousse dans les jambes. Donc elle lui demande une fois de s'arrêter, une deuxième fois de s'arrêter. Troisième fois, elle demande à la maman d'intervenir en disant « Écoutez, ça serait bien que vous arrêtiez de pousser, que votre enfant arrête de pousser le caddie dans mes jambes. » Et là, la maman dit « Non, non, il est hors de question, il faut laisser les enfants s'exprimer. J'ai pas du tout... sinon, on les traumatise. » Et là, il y a un jeune homme qui est derrière la maman et qui a 18-20 ans, et qui prend le pot de confiture et qui le verse sur la maman. Et la maman, évidemment, est estomaquée, et il lui dit, ben oui, moi, j'ai été éduquée comme ça, j'ai le droit de faire ce que je veux. Voilà. C'est un petit peu de ça dont on est revenu, et où il a été nécessaire de réajuster les choses.
Est-ce qu'il n'y a pas des enfants un petit peu naturellement, pas difficiles, mais un peu plus opposants que d'autres, un peu plus... Parce que parfois on est confronté à l'opposition de son enfant et on se dit mais c'est pas possible, ça arrive qu'à moi, l'herbe est plus verte ailleurs, il n'y a que le mien qui s'oppose devant moi, au supermarché, devant les invités, etc. Donc est-ce qu'il n'y a pas une nature quelque part un peu plus propice ou non, pas du tout, c'est juste...
Bien sûr, bien sûr. Alors d'abord je voudrais déjà valoriser ceux qui sont là et leur dire les copines qui vous disent moi, mon enfant m'obéit au doigt et à l'œil, j'y crois pas une seconde. Ou alors c'est un robot japonisé, enfin je sais pas, mais ça n'existe pas. Hein. Un enfant qui va vous obéir, l'enfant parfait qui... Oui, ma petite maman, je suis très contente de mettre la table. On peut rêver, mais pour l'instant, et Dieu merci, ça n'existe pas. Je pense que... il va vous dire, oh, bon, il y a des règles à la maison, ben oui, il y a des règles à la maison, ben oui, il faut les suivre. Et oui, c'est le code de la route de la vie. En famille. La deuxième chose, bien sûr, qu'il y a des enfants qui ont un tempérament. Alors déjà, ce qui va se passer, quand même, sans personnaliser, c'est vrai que on reste quand même encore dans une éducation où souvent on laisse un peu plus les garçons râler que les filles. Les filles, très vite, on va les reprendre, beaucoup plus vite. On va laisser
on
les garçons.
On se dit peut-être aussi que les filles, bon, si elles ont un peu de tempérament, c'est bon signe, elles ne se laissera pas faire plus tard ou quelque chose comme ça.
Voilà, c'est ce qui est en train de changer. C'est que maintenant, on est un petit peu plus en train d'autoriser les filles à râler. Mais elles râlent bien. Hein. Elles râlent très, très bien aussi. Hein. Donc, ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est effectivement... Donc, ça dépend aussi du tempérament des parents. C'est-à-dire qu'en fait, souvent... je dirais les petits ergoteurs, les petits râleurs, les petits discutants des consignes ont un tempérament ergoteur, râleur, un peu impulsif. Et les chiens ne faisant pas des chats, bah, ça va dans le même sens du coup, de l'un ou de l'autre des parents, voire des deux. Et donc, du coup, effectivement, je boum. Hein, bah, je suis un peu impulsif, je râle un peu. Bah, j'ai des parents un peu râleurs, donc bouf, ça part très vite. C'est souvent comme ça aussi qu'on se fait avoir par les cris. Moi, la première, j'ai une fille, voilà, pouf, on part, on classe, et puis on retombe. Parce qu'on est des tempéraments, voilà, un peu dynamiques. Et on sait que ça se passe comme ça. On a appris, on est attaché comme ça. D'ailleurs, pouf, on râle un coup, et puis ça retombe, et on revient. Mais on ne crie pas, et on se respecte toujours dans la façon de râler.
Est-ce que tu peux me dire comment on devrait valoriser un comportement, et comment aussi, également le critiquer? Parce que c'est aussi
alors,
cette
c'est
manière-là
le...
dont on peut c'est mettre en danger le lien d'attachement, peut-être en critiquant aussi la personne même de l'enfant, et non le comportement.
Alors là, tu pointes bien la pierre d'achoppement du problème. Dans la communication positive, ce qui est important, c'est de montrer à l'enfant le code de la route. Mais le code de la route qu'on va lui montrer, c'est celui des situations, c'est celui de ce qu'il fait, c'est celui de ce qu'il dit. Mais on ne va jamais critiquer, voire valoriser des traits de caractère, sinon on touche son estime de soi. Je vous donne un exemple. Je vais dire à un enfant que je suis très content, je suis pas contente. On peut très bien le faire en critique. Je suis pas contente qu'il ait pas rangé sa chambre, mais en aucun cas je vais lui dire que je suis pas contente que c'est un feignant. C'est pas tout à fait la même chose. Quand vous attaquez la personne, cette personne se sent en insécurité dans sa relation d'attachement qu'elle a avec vous. C'est-à-dire vous, parents, la personne qui est la plus importante pour moi, vous me traitez de feignant. Donc, votre parole, elle est unique. Et si mon parent pense que je suis un feignant, alors oui, je suis un feignant. Alors oui, j'attaque mon estime de soi. Oui, je pense que je ne vaux pas la peine.
C'est-à-dire qu'il va intérioriser ce que
oui,
lui dit son...
Oui, il va vraiment croire. Parce que c'est la personne, je dirais, qui a la parole déique, puisque c'est la personne à laquelle je suis attachée. C'est celle qui assure mon bien-être, ma sécurité, qui m'accompagne dans mon envol de vie. Et si cette personne pense que je suis un feignant, et si c'est répété en boucle, en cri, pourquoi ne le croirais-je pas? Je peux ne pas le croire de quelqu'un d'autre, mais de cette personne-là, je ne peux pas ne pas le croire. Et pareil, quand on insiste un petit peu trop, on dit souvent qu'il ne faut pas trop valoriser les enfants. C'est parce que c'est pas trop valorisé, on peut tout valoriser chez un enfant. On peut valoriser chacune de ses actions. On peut valoriser chacun de ses dessins, chacun de ses mots. Mais par contre, on ne doit pas valoriser sa personne parce qu'on fait encore un jugement de valeur. Oh, ce qu'elle est belle, cette jeune fille. Mais qu'est-ce qu'elle est belle? Mais qu'est-ce que tu es belle? Mais qu'est-ce que tu es belle? Et puis quand tu n'es pas gentille, qu'est-ce que tu es vilaine? Et après, on se retrouve, nous, pédopsychiatres, avec des jeunes filles qui ont des troubles alimentaires, qui ont des troubles de l'estime de soi, qui ne savent plus comment s'habiller, qui voilà. Et ça commence à arriver d'ailleurs chez les garçons aussi. Donc voilà, c'est toujours pointer à l'enfant, dans votre phrase, quelque chose qu'il peut réappliquer. C'est-à-dire que j'ai bien aimé que tu ranges la chambre. J'ai bien aimé que vous soyez là ce soir. Donc vous savez quoi faire pour me faire plaisir. Sous-entendu bien sûr que bah, les absents ont tort, hein. Voilà. Et que une chambre pas rangée, ça vous plaît pas. C'est toujours plus facile de le passer comme ça. Maintenant, de temps à autre, vous allez passer la vitesse. Attends, là, ta chambre elle est pas rangée. Je suis pas du tout d'accord. Donc hors de question que tu sortes samedi tant que la chambre est pas rangée. Mais pointer d'abord et vraiment clairement ce que l'enfant fait, dit ou la situation. Comme, bah, j'apprécie que t'aies respecté la consigne. Pas, c'est normal. Oui, c'est normal, au bout d'un moment. Mais au départ, l'enfant est un apprenti. Donc quand vous lui apprenez le pot, bah, vous le valorisez. Vous lui dites, bravo, c'est génial. Tu as fait dans le pot. Vous lui expliquez bien, tu n'as pas fait... À côté, ça fait dans le pot. Donc l'enfant, il sait que quand il fait pipi dans le pot, bah, c'est plus génial que quand il fait à côté. C'est tout bête.
Et idem quand il se met de quatre pattes à deux pattes.
Et bah oui.
Dit bravo également.
Et vous n'êtes plus là, après quelques années, à dire bravo, tu marches. Bravo, tu fais dans le pot, tu fais aux toilettes. Donc, il a appris et la consigne devient naturelle. Mais de temps en temps, vous avez le droit de dire que quand il va aux toilettes, en plus, il n'en fait pas partout, quoi. Vous avez le droit de valoriser qu'il respecte les chambres. Bien sûr, vous lui avez demandé sa chambre, il le fait régulièrement, c'est un peu normal dans une vie de famille. Mais de temps en temps, vous pouvez pointer que ça vous fait plaisir qu'il continue à pérenniser cette consigne que vous lui avez enseignée. Et je vous jure que c'est très important, là aussi, dans le lien d'attachement, mon parent voit que je maintiens une consigne, voit que je fais les efforts. Là, vous arrosez ce que vous avez envie de voir pousser.
Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, quand j'ai posé cette question-là, Gisèle a répondu en disant « ça me fait plaisir, j'ai beaucoup aimé, toujours à la première personne ». Qu'est-ce que ça change, cette implication du jeu, en fait ? Là aussi, on se sert du lien d'attachement, véritablement ?
Du lien émotionnel.
Du lien émotionnel.
Du lien émotionnel. C'est je, c'est sentiment, ça me fait plaisir, d'accord ? Donc, c'est moi, ton caregiver, ton protecteur, le garant de ta sécurité et ton bien-être qui te dit « voilà ce que je ressens ». Et donc, on fait appel à l'émotionnel, ce dont on a parlé, qui existe bien avant que vous employiez le langage pour donner vos consignes. Vos consignes, vous les donnez depuis la naissance, et l'enfant n'avait pas besoin de votre langage. Rien qu'à la douceur de votre voix, à la façon dont vous donnez votre voix, à la façon dont vous avez le visage, il sait si la consigne est importante à suivre ou si vous êtes en train de sourire et que ce n'est pas très important. Ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles parfois on est obligé de crier, c'est que parfois on ne pense pas, enfin les parents ne pensent pas au décodage du corps. C'est-à-dire qu'il y a un « oui, mon chéri, ne touche pas à la prise ». À 6 mois, il est à 4 pattes, il voit, lui, ce qu'il voit, c'est un visage souriant. « Mon chéri, tu te... non, non, j'aimerais... » Et là, l'enfant, lui, teste, il voit toujours le sourire. Et là, « enfin, je t'ai dit de ne pas toucher à la prise. » Bon, là, il y a un truc qui ne décode pas vraiment. Si, très clairement, c'est « non », simplement « non », mais avec un visage qui dit « non », avec un corps qui dit « non », avec un mot qui dit « non », l'enfant, il scotche. Il va réessayer, hein. Ça s'appelle des apprentis, puis ils veulent connaître, hein. Donc ils réessayent, ils retestent. Donc vous allez faire non, et là, il va réaliser. Vous savez, la petite cuillère qui tombe. Première fois, vous ramassez la petite cuillère. Vous voyez le bébé assis dans la chaise haute. On a tous eu ça. La cuillère tombe. Et là, le bébé, il réalise que quand la cuillère tombe, maman, elle se baisse, ramasse la cuillère, puis elle remonte, puis elle a encore un sourire la première fois. Génial. J'ai fait baisser maman rien qu'avec mon geste.
Et elle sourit en plus.
Et en plus, elle sourit.
Merveilleux.
Donc, je recommence. Waouh, ça marche. Mais là, le sourire, il est un peu moins fort. Et hop, je dis, bien. Là, il y a carrément l'émotion, elle a changé. Non seulement je peux la faire baisser, mais je peux lui faire changer l'émotion. Bon, puis à un moment, je me retrouve sans cuillère. Donc là, j'ai compris qu'il ne fallait pas continuer l'histoire. Mais en tout cas, j'ai entériné que je peux faire changer les émotions de maman rien qu'en faisant tomber une cuillère. Donc ce lien émotionnel, il existe tout le temps. Et l'histoire de la petite cuillère, elle est passionnante parce que c'est là où vous verrez à quel point votre enfant est attaché à vous, à quel point il vous décode et à quel point il s'en amuse aussi. Il en joue.
Je reviens 2 secondes sur l'opposition de l'enfant, le non-non-non d'un côté, le non-non-non de l'autre également. À un moment donné, il y a peut-être aussi une escalade, hein, si l'enfant continue, hein, puisqu'il continue, le parent continue également aussi, il s'habitue aussi. Quand on est au milieu de la tempête, de l'escalade, on communique quand et comment, enfin surtout comment. Est-ce que c'est là où il faut en rajouter, crier plus fort que l'enfant, ou qu'est-ce qu'on fait concrètement ?
Quand on est au summum de la tempête, il est hors de question de communiquer, mais vraiment hors de question, parce qu'à ce moment-là, c'est là qu'on dit les phrases qu'on pense pas du tout, mais qui blessent, de part et d'autre. Et dans ce jeu-là, les enfants, comme ils ont ce fameux lien émotionnel, ils connaissent exactement les boutons sur lesquels appuyer pour vous faire sortir de vos gonds. Moi, c'est oui, alors... très bien, t'écoutes tes patients, mais moi, tu m'écoutes jamais. Ou la semaine suivante, c'est « oui, c'est ça, tu fais de la gestion du stress, et quand je stresse, moi, tu t'occupes pas de moi. » Bon, la troisième semaine, j'essaye de m'occuper, et là, « oui, bah tiens, ça, voilà, tu fais comme si j'étais un de tes patients, mais pas du tout. » Et puis, ça finit par « on dirait mamie. » vous passe les rapports que je peux avoir avec ma mère. Donc, voilà. Donc, forcément, dans les termes au moment de la tempête, ça va être des termes violents et surtout qui vont vous toucher de part et d'autre, parce que vous aussi, vous le connaissez, vous savez très très bien quoi lui dire, parce que vous savez que ça va un tout petit peu. Donc on arrive à une communication qui n'avance pas le schmilblick, puisque l'idée c'était d'accepter ou de faire une consigne. Donc on va se faire du mal.
On dit rien ? On fait quoi ?
On râle beaucoup, on dit je suis pas contente, et on va se calmer. Alors, vous avez le droit de taper dans un punching ball, dans ce que vous voulez. Mais ce que je conseille souvent aux mamans, c'est de s'enfermer dans leur chambre, de fermer la porte à clé, de mettre les boules caisse, d'appeler leur copine et voilà. Et de...
Laissez passer l'orage.
Laissez passer l'orage. Le gamin va forcément venir un petit peu râler et essayer de vous faire sortir de la chambre. Mais on attend que ça passe. Si on peut le faire, c'est la meilleure méthode. Et on va coupler cette méthode à... Quand il va accepter la prochaine consigne, quand il va accepter les choses, on va le valoriser. Donc, d'un côté, si je veux avoir l'attention de mon caregiver, de la personne auquel je suis le plus attachée, comment je fais ? Soit je casse le vase de Chine de grand-mère. Pas mal comme technique, parce que du coup, maman, elle abandonne tous ses autres enfants, elle abandonne tout ce qu'elle fait, et elle s'occupe de moi. Pourquoi pas continuer le truc ? Sauf que là, maman, elle fait pas ça. Justement, quand je casse le vase de Chine de grand-mère, maman, elle s'en va. Quand je fais une bêtise, maman, elle n'est plus là. Par contre, quand je fais le comportement que maman attend, quand je lui obéis finalement, eh ben là, elle prend le temps de me dire « Waouh, je suis très contente, ça me fait très plaisir. Tiens, d'un côté, j'ai maman, de l'autre côté, je ne l'ai pas. Votre avis, que va choisir l'enfant qui est très attaché à ses parents, qui est très attaché à son caregiver ?» On revient toujours à l'attachement.
Donc ça veut dire qu'après cette mise à l'écart, en fait, si tu parlais du time-out, c'est ça en fait ? De mettre aussi un petit peu...
Alors le time-out est une technique qui a été décrite, mais qui est une technique un peu compliquée, qui est une technique où on isole un petit peu l'enfant au milieu, enfin on lui demande de ne pas bouger, c'est assez compliqué à faire. L'idée du time-out, c'est que justement la vie continue malgré le fait que l'enfant ne fasse pas la consigne et que tout d'un coup on se désintéresse de lui.
C'est-à-dire typique, vous avez des invités et il fait le cirque devant eux, il trépigne, il se roule des pieds, c'est un peu
voilà.
Ça, ça peut
donc
être ça.
On le prend tranquillement, mais sûrement, on le sort de la pièce et on fait de telle sorte qu'il ne puisse plus rentrer dans la pièce, mais sans le punir. Juste, quand tu es comme ça, tu ne nous intéresses pas, on le sort et tu reviendras nous voir quand tu seras plus calme.
D'accord. Et pendant ce temps-là, il tape dans la porte, on laisse
faire. Et pendant ce temps-là,
on
tape à la porte, on prend un abonnement chez la paire ou chez le roi Merlin, et il va taper à la porte. Mais c'est le seul moyen d'obtenir sur du long terme le fait qu'il réalise que ce comportement-là, vous ne voulez pas. Vous pouvez lui crier dessus, mais du coup, vous ne serez plus avec les invités.
Et lui, il aura gagné.
Et lui aura gagné le fait que vous vous occupez de lui plutôt que des invités.
D'accord. Je reviens là, on laisse passer l'orage du coup. L'orage passe, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec l'enfant ?
On le reprend entre quatre yeux, voilà. Et on rediscute l'affaire. Et là, c'est là où on peut le demander à l'enfant : qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui fait que tu t'es mis en colère pour cette consigne ? On peut aussi rechercher peut-être qu'il a une petite souffrance ou peut-être qu'en ce moment. Vous le trouvez vraiment très souvent colérique et il a peut-être un petit souci. Et c'est important de le chercher, mais pas au moment de refus de la consigne, au moment où vous vous sentez en colère. Parce qu'il n'y a pas de discussion possible dans ces moments-là. Une fois que tout le monde est calmé, là, vous pouvez dire, écoute, en ce moment, je ne sais pas, je te demande des choses que je te demande d'habitude. D'habitude, tu les fais, je sais que ça ne te fait pas plaisir, mais d'habitude, tu les fais quand même, là, c'est difficile, je suis obligée de te le répéter plus de fois. Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Est-ce que tu as des soucis à l'école ? Peut-être, effectivement, prendre ce temps-là pour dire, j'aimerais comprendre ce qui se passe. Mais ça n'empêche qu'on maintient la consigne. Vous aussi, à ce moment-là, vous pouvez dire, tu sais, moi, en ce moment, dans ma vie, c'est un peu difficile, mon travail est un peu plus prenant, je suis un peu inquiète pour ta grand-mère qui est hospitalisée, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent, j'ai du mal, ton petit frère m'inquiète, donc oui, je suis un petit peu moins à côté de toi, mais par contre, si tu me cries dessus, ça ne va pas me donner envie d'être plus à côté de toi, donc ok, on va s'organiser pour que j'ai un temps un petit peu avec toi, je me rends compte que je ne suis pas assez... On peut après renégocier, rediscuter le pourquoi peut-être du cri, de l'enfant et pourquoi il est particulièrement agité ou particulièrement refuse vos consignes, mais dans un moment de calme et après la tempête, jamais pendant.
D'une manière générale, est-ce que tu penses que c'est plus difficile d'élever les enfants aujourd'hui ou qu'il y a 50 ans, ou alors ça a toujours été un job plutôt, entre guillemets, ingrat, le job de parent, ou est-ce que c'était...
Je crois que, j'ai envie de dire, la fonction parentale, elle est très récente finalement. Parce que si on regarde dans nos sociétés d'avant la Première Guerre, les enfants étaient soit élevés par des nourrices, soit élevés par des préceptrices dans les maisons bourgeoises, et chez les ouvriers, les enfants étaient un peu une calamité qui s'élevait un peu tout seul, parce qu'il y avait beaucoup de bouches à nourrir, chez les paysans, on les faisait travailler très vite. On n'avait pas cette notion de fonction parentale, qui est arrivée, je dirais, après la guerre, quand on a voulu faire des familles, et surtout après la guerre de 39-45, où on a fait la famille avec le chef de famille, avec les enfants, et où on a demandé à la mère de particulièrement s'impliquer dans sa fonction parentale. Et depuis les années 70, Dieu merci, on a réintroduit le père aussi et on lui a demandé de s'impliquer. La fonction parentale, c'est la fonction d'être à côté de l'enfant, de l'aider à développer sa personnalité, développer ses forces, développer ses compétences, développer ses émotions, développer son raisonnement pour l'aider à mieux s'autonomiser. Et moi, je trouve qu'on a justement la chance d'avoir une société où on a des parents qui prennent ce rôle très à cœur et qui, parfois, malheureusement, perdent confiance en eux. C'est pas que c'est plus difficile, mais parfois, ils doutent un petit peu. Eux aussi se disent, est-ce que je vais être un bon parent ?
Ils doutent du bien fondé de leur fonction parentale ?
Non, ils doutent de est-ce que je fais bien ? Parce qu'on est quand même dans une société où tout doit être parfait, tout doit être bien fait. Hein,
je le répète encore. L'enfant doit être performant.
Le parent doit être performant. Mm-hmm. Tout ce qui se passe quand un enfant fait mal, c'est forcément de la faute du parent. Mm-hmm. On a culpabilisé quand même bien les mamans, hein, mère fusionnelle, mauvaise mère, mère froide. Enfin, des termes qui sont encore lourds à porter. Qui font que moi, tous les jours, j'ai des parents qui disent que je suis un mauvais père, je suis une mauvaise mère. J'ai dit, attendez, vous avez passé ma porte. Ça veut bien dire que vous vous souciez du bien-être de vos enfants. Vous êtes chez moi. Vous savez qu'on va revoir un petit peu tout ce qui se passe un peu à la maison. C'est pas facile de se remettre en question. C'est pour moi, là, les vrais parents, c'est de dire, bon, c'est pas toujours facile. On sait pas toujours comment il faut prendre les choses. Parfois, de se faire aider. Parfois de lire des livres, mais je crois que je le répète très très souvent dans mes livres, c'est pas parce que vous faites la recette du docteur Georges que ça va marcher. Il faut au contraire prendre 2-3 ingrédients du docteur Georges et l'appliquer dans votre relation singulière, dans votre lien émotionnel et d'attachement unique et singulier qui vous unit à chacun de vos enfants. Et donc dire, tiens, ça, dans ma relation, ça m'irait bien. Ça, par contre, ça va pas du tout pour ma fille, ça va pas du tout pour mon gamin. Puis moi, je le sens pas de le faire. Donc, l'utilisez pas, jamais. Par contre, c'est des avis, c'est des connaissances, c'est un apprentissage.
Merci, Gisèle.
Merci. Je suis très touchée de vos applaudissements.